Monsieur le secrétaire général, par délibération du 23 janvier 1985, le Conseil de l'Université a conféré le titre de docteur honoris causa de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris à Monsieur Javier Pérez de Cuellar, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en foi de quoi le présent diplôme lui a été remis par nous, président de l'Université, en l'Assemblée solennelle du 24 avril 1985. Et pour vous incorporer plus étroitement encore à notre université, nous n'oublions pas que vous êtes un de nos collègues, monsieur le secrétaire général. Nous vous décernons l'épitoge de docteur en droit. Comme travail pratique.
C'est le travail d'une femme. Attendez.
Voilà. Une médaille de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, gravée à votre nom, monsieur le secrétaire général. Et nous vous remercions de l'honneur que vous nous avez fait. Merci.
Monsieur le docteur de l'Université de Paris.
Messieurs les ministres, Madame la recteur, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis sensible au grand honneur que vous m'avez fait en m'accueillant parmi vous. Autrefois déjà, j'étais venu suivre ici avec avidité et passion les cours de l'illustre professeur Georges Sell. Aujourd'hui, vous me conférez le titre de docteur honoris causa de votre prestigieuse université. Je n'ai pas de scrupules à en ressentir de la fierté, puisque je sais qu'à travers moi, c'est l'Organisation des Nations Unies que vous honorez. Je ne peux cependant m'empêcher d'éprouver de l'humilité à la pensée que nous allons fêter son 40e anniversaire au sein d'une institution qui remonte, je crois, au 12e siècle. Longévité tout à la fois impressionnante et réconfortante d'un centre incomparable de rayonnement intellectuel dont la vocation à l'universel s'est affirmée si longtemps avant la création de l'Organisation mondiale. Puisse celle-ci s'inspirer des traditions d'ouverture et de renouvellement qui ont permis à l'Université de Paris de traverser les siècles sans perdre sa jeunesse et sa vitalité. C'est en m'efforçant à l'objectivité qui sied aux universités que je me propose de vous parler du rôle du secrétaire général des Nations Unies. Comme vous le savez, le rôle du secrétaire général est esquissé plus que défini dans le chapitre 15 de la charte qui comprend les articles 97 à 101. Ce rôle est à la fois administratif et politique. La fonction politique, dont le cadre général est fixé par les articles 98 et 99, a fait couler beaucoup d'encre, mais n'a jamais été définie avec beaucoup de précision. Les possibilités d'action qu'elle recouvre peuvent être plus ou moins vastes selon le climat des relations internationales et aussi selon les qualités de tact, de conviction, de courage, de réalisme et de fidélité aux objectifs de la charte dont fait preuve le titulaire de cette fonction. Commençons par préciser ce que le secrétaire général n'est pas. Cette question ne fait pas de doute pour la communauté diplomatique, mais elle prête à confusion auprès du grand public. Il est bien connu, même si l'on ne s'en souvient pas toujours, que dans la mesure où l'Organisation des Nations Unies n'a pas de pouvoir souverain, le secrétaire général n'est pas le chef d'un gouvernement mondial. Il n'a pas de pouvoir coercitif lui permettant de faire appliquer les décisions de l'organisation. Il n'est pas non plus une sorte de procureur susceptible de lancer des accusations et de prononcer des condamnations. Il n'y a guère d'absolu dans les affaires internationales. Les normes énoncées dans la charte emportent certes une adhésion sans réserve, mais l'application de ces normes à une situation complexe est souvent sujette à controverse car les parties en présence n'ont ni le même point de vue ni la même échelle de valeur. Sans parler des impératifs découlant de la charte, il arrive même que le texte des résolutions adoptées par les principaux organes délibérants se prête à des interprétations divergentes entre lesquelles l'organe qui l'a voté tranche rarement. De par la nature même de son mandat, il est clair que le secrétaire général n'a pas sa place dans une transaction diplomatique, voire une entreprise qui ne serait pas conforme aux principes de la charte ou aux décisions adoptées par les organes compétents de l'organisation. Pourtant, il lui faut faire preuve de réalisme politique et aussi d'une infinie patience pour veiller à ce que sa propre évaluation de la position des parties n'interdise pas la communication entre elles et ne les empêche pas de chercher à s'entendre, facilitant ainsi la détente. Ce n'est donc pas par opportunisme ni par facilité, non plus que par désir d'être en bon terme avec tous, mais bien parce qu'il y est tenu par les impératifs de sa charge que le secrétaire général s'abstient de souscrire aux jugements moraux si fréquemment portés par les dirigeants ou les médias d'un pays sur la position d'un autre. Les contraintes qui pèsent sur l'exercice des fonctions du secrétaire général ne justifient pas cependant qu'il reste passif devant l'évolution des relations internationales en général ou devant les responsabilités des uns et des autres dans ces situations particulières. Bien que ces activités politiques ne puissent porter de fruits que lorsque la raison prévaut, il ne saurait se contenter d'attendre que l'atmosphère change ni que le cours des événements les inverse. Il risquerait en effet de voir ses fonctions s'atrophier rapidement, faute d'être suffisamment exercées. En période de tension et de difficultés, sa mission est de rechercher toutes les possibilités qui peuvent se présenter d'améliorer la communication et les accommodements entre États en désaccord et de tirer parti de ces possibilités. À mon avis, refuser d'agir et ne pas se préoccuper de l'issue d'une question ou d'un différend serait totalement inadmissible de la part du secrétaire général. Il faut qu'il soit impartial, mais non pas indifférent. Qu'est-ce que l'impartialité ? Elle se juge avant tout à la capacité de gagner la confiance des partis en présence. Le secrétaire général ne va pas seulement se montrer impartial. Il doit aussi être considéré comme tel. Ce qui exige, d'abord, qu'il préserve scrupuleusement son indépendance. Il ne doit pas laisser les pressions qui ne manquent pas d'exercer les politiques de gouvernement ou des groupes de gouvernement porter atteinte à sa liberté de penser ou déformer son jugement. Il doit en revanche être guidé par un souci profond de justice et d'humanité. L'impartialité exige, en outre, qu'en cas de divergence ou de différend entre États, le secrétaire général essaye de comprendre du mieux qu'il peut l'insécurité et ses causes, les craintes et les aspirations qui ont incité un État à suivre une politique ou une orientation donnée. J'ai pu constater par moi-même que le durcissement des positions ou l'aggravation des conflits internationaux tient souvent, pour une large part, à ce que l'une des parties ne prend pas en compte les craintes de l'autre, non plus que ceux qui le soutiennent. Il est donc clair qu'il faut qu'un tiers prenne en considération les craintes de l'une et de l'autre. Ceci me rappelle une phrase mémorable de l'un de mes prédécesseurs, Dag Hammarskjöld, début de citation, « Vous ne pouvez espérer trouver des solutions durables à un différent que si vous avez appris à considérer autrui de façon objective, mais aussi à éprouver subjectivement ses difficultés. » Fin de citation. Ceci requiert un effort obstiné de compréhension et d'imagination capable de transformer une quête qui pourrait à défaut s'avérer décevante. Bien que je le préconise sans réserve, je tiens à souligner que cet effort ne saurait être aussi utile dans tous les cas. Il peut se faire que les différents d'un État s'accrochent à leur position et paraissent inaccessibles aux arguments de la raison. En pareil cas, lorsqu'il est arrivé au point où poursuivre ses bons offices ne pourrait qu'entretenir une illusion trompeuse, le secrétaire général ne doit recourir ni aux équivoques ni aux accusations, mais dire clairement ce qu'il en est. Je voulais maintenant commenter plus précisément les articles 98 et 99 de la Charte. Selon le premier, je cite, le secrétaire général agit de cette qualité à toutes les réunions. Fin de citation, des principaux organes délibérants et, citation encore, remplit toute autre fonction dont il est chargé par ces organes. Fin de citation. En pratique, cela veut dire qu'il présente des rapports et qu'il exerce ses bons offices à la demande du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale. En ce qui concerne l'élaboration des rapports, c'est bien entendu une part très importante, voire essentielle, des fonctions du secrétaire général que de recueillir les informations dont les organes de l'organisation peuvent avoir besoin et de leur fournir tous avis et conseils utiles. Cela dit, pour que les travaux de l'organisation gardent tout leur sens, il importe que de tels rapports ne soient pas demandés par routine. Forcé de reconnaître que l'Assemblée générale ne tient pas toujours compte de cette préoccupation. On risque fort de provoquer ce que je pourrais appeler une dévaluation des rapports lorsqu'on les demande sans s'escompter qu'ils contribueront vraiment à faire avancer les travaux. Il y a certains domaines dans lesquels nous courons ce danger. En application de l'article 98, le secrétaire général doit présenter à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'organisation. À mon sens, il ne s'agit pas ici d'un simple compte rendu des événements de l'année, d'un tour d'horizon des différents problèmes qui se posent, ni d'un résumé des travaux du secrétariat. L'expression « activité de l'organisation » doit être entendue au sens le plus large. Elle englobe tout ce que l'organisation a fait, a omis de faire ou est tenue de faire, eu égard à la situation générale de la communauté internationale. Par souci de brièveté et d'efficacité, et pour bien fixer l'attention sur une question dominante, il me semble hautement nécessaire que ce rapport ait un thème central. Je suis heureux de l'accueil qui a été réservé à mes rapports annuels. Je dois néanmoins ajouter que mon regret, dans bien des cas, les mesures que j'ai suggérées ne se sont pas encore matérialisées. Ce n'est pas tenter d'imposer ma propre interprétation de l'article 99 de la Charte que de dire qu'il contient les trois éléments de droit, des responsabilités et de pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Le premier élément, le droit, ressort à l'évidence au livre même de l'article, n'a jamais fait l'objet de contestations ou de divergences entre les États membres de l'Organisation des Nations Unies. En revanche, les deux autres éléments continuent de susciter des doutes et de provoquer des questions qui méritent réponse et éclaircissement. À première vue, il semble que dans la mesure où le secrétaire général est autorisé à appeler l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale, il est le devoir de le faire si les parties au conflit ou d'autres États concernés ne sont pas désireux de recourir au Conseil. En réalité, cette obligation n'a rien d'automatique. Il est bon de rappeler que lors de la rédaction de la Charte, un amendement qui tendait à obliger le secrétaire général à invoquer cet article a dû être retiré. Avant d'en faire application, le secrétaire général doit prendre en considération l'issue possible de son initiative, laquelle dépend de l'accord des membres permanents, lui-même déterminé par leurs relations bilatérales ou leurs ententes. On risquerait d'aggraver les crises au lieu de l'atténuer si le secrétaire général, ayant exercé le droit qui lui confère l'article 99, il s'en suivait à décision ou désaccord au sein du Conseil de sécurité. De plus, la variété et la fluidité des situations qui peuvent menacer la paix et la sécurité internationale commandent la souplesse dans la stratégie de paix mise en œuvre. C'est ce qui explique qu'à l'article 99, la décision soit laissée à la discrétion du secrétaire général. Il se peut fort bien que des situations également dangereuses doivent être traitées de façon différente, selon qu'elles sont plus ou moins liées aux rivalités entre grandes puissances, selon que les parties sont plus ou moins accessibles à des arguments d'ordre moral, et dans certains cas, selon que les parties ou l'une d'entre elles répugnent à être mises en cause par le Conseil de sécurité. Il ressort clairement du libellé même de l'article 99, confirmé par les travaux de la commission préparatoire, que la Charte assigne au secrétaire général, en plus de ses autres fonctions, la mission de mener par anticipation ou à titre préventif une action diplomatique multilatérale. Et cette expression, à son avis, et pour le mettre en danger, indique sans ambiguïté qu'il peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les causes des conflits non seulement actuels, mais aussi potentiels, et qu'il doit suivre constamment et de façon indépendante l'évolution de toutes les affaires touchant la paix et la sécurité internationale. Il convient aussi de noter que l'article 99 emploie le terme « affaires » d'une acception beaucoup plus large que l'expression « différent » ou « situation ». Ce mot désigne en effet, selon le terme même de la commission préparatoire, tout événement, et je cite, « susceptible d'avoir des incidences politiques graves auxquelles seule une action politique permettrait de remédier. » Fin de citation. Il laisse donc au secrétaire général une marge d'appréciation considérable. Pour les auteurs du rapport de la commission préparatoire, la responsabilité conférée au secrétaire général exige de sa part l'exercice des plus hautes qualités de jugement politique, de tact et d'intégrité. Certains commentateurs considèrent pour leur part que l'ambiguïté de l'article 99 pèse sur sa charge. Quoi qu'il en soit, sans nullement porter atteinte au principe selon lequel le Conseil de sécurité assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, il met le secrétaire général en mesure de renforcer l'action menée par le Conseil pour prévenir les conflits et négocier des solutions. Vis-à-vis de l'Assemblée générale, le secrétaire général se trouve dans une position similaire. Le règlement intérieur de l'Assemblée lui donne en effet le droit d'inscrire à son ordre du jour provisoire toute question qu'il juge nécessaire de lui soumettre. Pour ma part, j'ai toujours bénéficié de la compréhension du Conseil de sécurité lorsque je me suis efforcé de rechercher des solutions aux différences internationales actuelles ou de remédier à des situations mettant la paix en danger. Chaque fois que le Conseil n'est pas en mesure d'adopter une résolution faute d'accord entre ses membres permanents, fait une recommandation que l'une des parties rejette, ou adopte une résolution dont certains États influents, directement ou indirectement concernés, ne soutiennent pas ou ne donnent pas l'impression de soutenir la mise en œuvre, le secrétaire général doit être le principal intermédiaire entre les parties. Dans ses rôles, il peut contribuer à sauvegarder les éléments qui permettront aux parties de parvenir à un accommodement ou à un accord, ou même, avec un peu de chance, contribuer à en jeter les bases. Dans l'exercice de cette fonction, le secrétaire général doit improviser et peut même se voir contraint de suggérer, pour atteindre les buts définis par le Conseil de sécurité, des moyens autres que ceux envisagés initialement. Avec le temps, ce rôle du secrétaire général s'est considérablement développé. Il ne se limite pas aux différends ou situations qui relèvent de la compétence du Conseil de sécurité. Dans les affaires dont s'occupe l'Assemblée générale ou l'adoption de résolutions, ne met pas un terme à la controverse, le secrétaire général a le devoir de tout mettre en œuvre pour que les parties restent ouvertes au dialogue. Ce rôle implique que j'offre mes vœux d'office, et j'y ai été encouragé aussi bien par le Conseil de sécurité que par le gouvernement concerné. Je sais gré au gouvernement, même lorsqu'ils étaient irrités de la manière dont les principaux organes délibérants avaient traité d'une affaire les concernant directement, de n'avoir jamais refusé de participer à un dialogue dont le secrétaire général avait pris l'initiative. Le dialogue peut parfois sembler décourageant, mais je persiste à penser que je ne peux pas me permettre de me laisser aller au découragement. Mes distingués prédécesseurs m'ont fort bien expliqué à quel point il importe de s'assurer la confiance des parties pour que cette diplomatie discrète soit efficace. Il y a cependant un domaine où le rôle de secrétaire général n'a pas évolué, et il s'agit de l'application de l'article 96 de la Charte. Cet article prévoit que les organes de l'organisation, autres que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, qui ont de toute façon le droit de demander à la Cour internationale de justice des avis consultatifs, peuvent être autorisés par l'Assemblée générale à demander également de tels avis. Cette autorisation a été donnée à plusieurs organes des Nations Unies, ainsi qu'à des agences spécialisées, mais non au secrétaire général. Ni en ce qui concerne sa fonction politique, ni pour ses tâches administratives. Pour ne pas être dépassé par l'évolution des conditions politiques contemporaines, la diplomatie multilatérale ne doit pas être uniquement conçue en termes de bons offices de négociation. En cas de crise, elle doit être sensible à toutes les nuances de la situation et, grâce à de multiples points de contact et de communication entre gouvernements, dissiper les craintes et les soupçons qui sont à l'origine des conflits. Si elle y parvient, elle peut obtenir des adversaires potentiels des concessions que, livrées à eux-mêmes, ils n'auraient même pas envisagées. Je trouve encourageant qu'à la suite de la publication en 1982 de mon premier rapport annuel, certaines de ces idées aient fait l'objet des consultations entre les membres du Conseil de sécurité. Je tiens à bien préciser que lorsque j'ai fait référence à des moyens ou des instruments plus efficaces en vue de renforcer le rôle du secrétaire général, je n'ai en vue aucune modification du système envisagé par la Charte. Même si la Charte n'est pas intangible, je considère que le secrétaire général provoquerait la dissension s'il proposait aujourd'hui de l'amender directement ou indirectement. La Charte telle qu'elle est constitue l'unique fondement de l'autorité du secrétaire général. Une réforme du secrétariat dûment approuvée à la majorité requise ne modifierait aucunement la répartition des fonctions et des pouvoirs entre les différents organes des Nations Unies. Le renforcement des moyens institutionnels de la diplomatie préventive, loin d'affaiblir le rôle du Conseil de sécurité, le rendrait plus efficace. Tant que les moyens de la diplomatie multilatérale seront aussi notoirement insuffisants
Par rapport à ses besoins, il sera incapable d'infléchir le cours des événements comme l'attendent le peuple du monde entier. J'ai déjà dit que les fonctions politiques du secrétaire général ne sont pas très précisément définies. En revanche, pour ce qui est de ses attributions administratives, l'article 97 de la Charte va aussi loin qu'on pouvait raisonnablement l'espérer en faisant du secrétaire général le plus haut fonctionnaire et en cette qualité le chef de l'exécutif de l'organisation. Ces dispositions procèdent manifestement de l'idée d'un secrétariat unifié travaillant en équipe sous la direction d'un seul responsable. Les fonctions administratives du secrétaire général se sont considérablement développées depuis la fondation de l'organisation. Néanmoins, on a aussi observé au fil des années une érosion régulière et extrêmement regrettable des pouvoirs et de la marge de manœuvre qui lui sont indispensables pour faire fonctionner le secrétariat efficacement et sans heurts et instaurer une fonction publique internationale cohérente. D'abord, bien que tous les gouvernements professent leur attachement au principe d'une administration internationale indépendante, rares sont ceux qui s'abstiennent de défendre leurs intérêts particuliers par des démarches fréquemment réitérées, notamment en matière de personnel. Ensuite, la division des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, c'est-à-dire entre l'Assemblée générale et le secrétariat, qui est si indispensable à une saine gestion administrative, tend à s'estomper lorsque l'Assemblée générale donne des directives de plus en plus détaillées sur divers aspects de la politique du personnel. Tout cela soulève des graves problèmes de responsabilité et d'autorité administrative qu'à mon avis, les États membres ne sauraient ignorer ni éluder s'ils entendent disposer d'un instrument efficace pour atteindre les objectifs de la Charte. En dehors de la pacification des relations internationales et de l'administration de l'Organisation des Nations Unies, il est trois domaines d'action dont relèvent des situations ayant des incidences sur la paix et la sécurité internationale et qui, à mon avis, doivent être au premier rang des préoccupations et des tâches du secrétaire général et exigent un attachement indéfectible au principe de la Charte. Le premier est celui du désarmement, en particulier du désarmement nucléaire. Sans porter des jugements sur les positions adoptées par les grandes puissances dans leurs négociations bilatérales sur la limitation des armements nucléaires, je considère que le secrétaire général manquerait à ses devoirs s'il ne jetait pas un cri d'alarme pour avertir l'humanité que la course aux armements, par son rythme et son ampleur, risque de la conduire au suicide collectif. À cet égard, le secrétaire général a, envers l'humanité, un devoir qui doit l'emporter sur toute autre considération. S'il doit se garder de compromettre par des interventions intempestives dans la négociation les progrès vers un but universellement admis, il ne saurait rester le témoin impuissant d'un processus dans lequel une poignée d'États s'arroge un pouvoir qui appartient à tous, celui de veiller à la survie de l'humanité et des civilisations. Le deuxième de ce domaine, c'est la lutte pour le respect des droits de l'homme, qui constitue désormais l'un des principaux fondements d'un ordre international juste et durable. Étant donné les susceptibilités des gouvernements, le secrétaire général doit agir en ce domaine avec la plus grande circonspection et se garder de toute erreur d'appréciation qui pourrait aggraver les souffrances des victimes de l'oppression. Mais il ne doit pas, pour autant, perdre de vue que l'essentiel est d'obtenir des résultats concrets, même si ces déclarations, et ces rapports servent ou contrarient les intérêts politiques de tel ou tel des partis concernés. Le troisième de ce domaine est celui de l'action à mener en cas de catastrophe naturelle, où il appartient au secrétaire général de battre le rappel des secours internationaux. C'est à lui qu'il revient de solliciter et d'organiser méthodiquement le secours pour répondre aux besoins les plus pressants, en laissant de côté toute autre considération. L'action menée récemment pour venir en aide à divers pays africains me paraît à cet égard encourageante, car elle a mis en lumière le rôle indispensable que joue le secrétaire général dans un domaine d'une importance capitale. Elle me renforce dans la conviction que la solidarité n'est pas un vain mot. Ici, le devoir du secrétaire général se situe non point par rapport à telle ou telle exigence d'ordre juridique, mais vis-à-vis de l'humanité tout entière, dont il est un peu la conscience. Il se pourrait, d'ailleurs, que cet aspect de son rôle soit appelé à se renforcer comme recours de l'opinion mondiale face aux dangers sans précédent qui menacent aujourd'hui la planète. C'est au nom du peuple, en effet, que le secrétaire général doit plaider pour le désarmement, la tolérance et la solidarité. Beau et noble angélisme, objecteront les partisans de la realpolitik, inclinés à ne voir là qu'une version moderne de la gestion de la conscience malheureuse. Mais comment ignorer que, grâce à la force qu'elle tire du soutien de l'opinion publique, des positions morales uniquement inspirées par les soucis du bien universel peuvent aussi changer le cours de l'histoire. Au moment où les discours politiques semblent atteints par les soupçons, peut-être faut-il se servir du pouvoir de l'imaginaire et de celui de la conscience morale. C'est ainsi qu'ensemble, nous pourrons bâtir un monde meilleur. Merci.
Monsieur le secrétaire général, vous avez fait une leçon magistrale. Notre admiration est grande et nos souhaits vous accompagnent pour la réussite de votre œuvre. Permettez-moi de vous dire seulement que vous avez fait cette leçon sous le regard du cardinal Richelieu, du premier grand diplomate de cette maison. C'est lui qui a écrit négocier, 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 il y aura toujours quelque chose qui restera. C'est une grande leçon et je crois que vous serez le représentant pour nous tous maintenant de la réalisation de cette leçon. En remerciant l'assistance, les grandes personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et en demandant d'excuser les services si un protocole rigoureux n'a pas été respecté. Le protocole à l'intérieur de cette maison, c'est justement l'égalité des pères. Permettez-moi de signaler parmi nous un autre docteur honoris causa qui a une tâche parallèle à la vôtre, je pense, au directeur général de l'UNESCO, qui est docteur honoris causa de l'université aussi. En vous remerciant encore, j'aurai le plaisir de vous inviter à la réception que l'université du docteur Thérèse de Coya, je prononce bien ?
Très bien.
Offre à tous nos invités. Merci. Je vous demande un instant. Vous voyez comment on ferme vite ?